Et quoi, les épicuriens, de quelle simplicité étaient-ils allés premièrement imaginer que leurs atomes, qu'ils disaient être des corps ayant quelque pesanteur et un mouvement naturel contrebas, eussent bâti le monde, jusqu'à ce qu'ils fussent avisés par leurs adversaires que par cette description il n'était pas possible qu'ils se joignissent et se prissent l'un à l'autre, leur chute étant aussi droite et perpendiculaire et engendrant partout des lignes parallèles. Par quoi il fut forcé qu'ils y ajoutassent depuis un mouvement de côté fortuite, et qu'ils fournissent encore à leurs atomes des queues courbes et crochues pour les rendre aptes à s'attacher et à se coudre. Et lors même, ceux qui les poursuivent de cette autre considération, les mettent-ils pas en peine? Si les atomes ont par sort formé tant de sortes de figures, pourquoi ne se sont-ils jamais rencontrés à faire une maison et un soulier? Pourquoi de même ne croit-on qu'à un nombre infini de lettres grecques versées et mis la place serait pour arriver à la contexture de l'Iliade? Ce qui est capable de raison, disait non, est meilleur que ce qui n'en est point capable. Il n'est rien meilleur que le monde, il est donc capable de raison. Cotta, par cette même argumentation, fait le monde mathématicien, et le fait musicien et organiste, par cette autre argumentation aussi de Zénon. Le tout est plus fort que la partie. Nous sommes capables de sagesse, et comme partie du monde, il est donc sage. Il se voit infini pareils exemples, non d'arguments faux seulement, mais ineptes, ne se tenant point et accusant leurs auteurs non tant d'ignorance que d'imprudence. Est-ce reproche que les philosophes se font les uns aux autres sur les dissensions de leurs opinions et de leurs sectes? Qui fagoterait suffisamment un amas des âneries de l'humaine sapience, il dirait merveille. J'ai assemblé volontiers comme une montre, par quelques biais non moins utiles que les instructions plus modérées. Jugeons par là ce que nous avons à estimer de l'homme, de son sens et de sa raison, puisqu'en ces grands personnages, et qui ont porté si haut l'humaine suffisance, il s'y trouve des défauts si apparents et si grossiers. Moi, j'aime mieux croire qu'ils ont traité la science casuellement ainsi, qu'un jouet à toute main, et se sont ébattus de la raison comme d'un instrument vain et frivole, mettant en avant toutes sortes d'inventions et de fantaisies, tantôt plus tendues, tantôt plus lâches. Ce même Platon, qui définit l'homme comme une poule, dit d'ailleurs, après Socrate, qu'il ne sait à la vérité ce que c'est que l'homme et ce que c'est l'une des places du monde d'autant difficile connaissance. Par cette variété et instabilité d'opinion, ils nous mènent comme par la main, tacitement, à cette résolution de leur irrésolution. Ils font profession de ne présenter pas toujours leur avis à visage découvert et apparent. Ils l'ont caché, tantôt sous des ombrages fabuleux de la poésie, tantôt sous quelque autre masque. Car notre imperfection porte encore cela, que la viande crue n'est pas toujours propre à notre estomac. Il la faut assécher, altérer et corrompre. Ils font de même. Ils obscurcissent parfois leurs naïves opinions et jugements et les falsifient pour s'accommoder à l'usage public. Ils ne veulent pas faire profession expresse d'ignorance et de l'imbécilité de la raison humaine pour ne faire peur aux enfants, mais ils nous la découvrent assez sous l'apparence d'une science trouble et inconstante. Je conseillais en Italie à quelqu'un qui était en peine de parler italien que pourvu qu'il ne cherchât qu'à se faire entendre sans y vouloir autrement exceller, qu'il employât seulement les premiers mots qui lui viendraient à la bouche, latin, français, espagnol ou gascon, et qu'en y ajoutant la terminaison italienne, il ne faudrait jamais rencontrer quelque idiot du pays, ou toscan, ou romain, ou vénitien, ou piémontois, ou napolitain, et de se joindre à quelqu'une de tant de formes. Je dis de même de la philosophie. Elle a tant de visages et de variétés, et a tant dit que tous nos songes et rêveries s'y trouvent. L'humaine fantaisie ne peut rien concevoir en bien et en mal qui n'y soit. Et j'en laisse plus librement aller mes caprices en public, d'autant que, bien qu'ils soient nés chez moi et sans patron, je sais qu'ils trouveront leur relation à quelque humeur ancienne, et ne faudra quelqu'un de dire « voilà d'où il le prit ». Mes mœurs sont naturelles, je n'ai point appelé à les bâtir, le secours d'aucune discipline. Mais toutes imbéciles qu'elles sont, quand l'envie m'a pris de les réciter et que pour les faire sortir en public un peu plus décemment, je me suis mis en devoir de les assister et de discours et d'exemples, ça a été merveille à moi-même de les rencontrer par cas d'aventure, conforme à tant d'exemples et discours philosophiques. De quel régiment était ma vie, je ne l'ai appris qu'après qu'elle est exploitée et employée. Nouvelle figure, un philosophe imprémédité et fortuit. Pour revenir à notre âme, ce que Platon a mis la raison au cerveau, l'ire au cœur et la cupidité au foie, il est vraisemblable que ça a été plutôt une interprétation des mouvements de l'âme qu'une division et séparation qu'il en ait voulu faire comme d'un corps en plusieurs membres. Et la plus vraisemblable de leurs opinions est que c'est toujours une âme qui, par sa faculté ratiocine, se souvient, comprend, juge, désire et exerce toutes les autres opérations par divers instruments du corps, comme le nocher gouverne son navire, selon l'expérience qu'il en a, hors tendant ou lâchant une corde, hors haussant l'antenne ou remuant l'aviron par une seule puissance, conduisant divers effets. Et qu'elle loge au cerveau ce qui a peur de ce que les blessures et accidents qui touchent cette partie offense incontinent les facultés de l'âme. De là, il n'est pas inconvénient qu'elle s'écoule par le reste du corps. Comme le soleil épand du ciel en hors sa lumière et ses puissances et en remplit le monde. Aucun n'a dit qu'il y avait une âme générale comme un grand corps, duquel toutes les âmes particulières étaient extraites et s'y en retournaient, se remêlant toujours à cette matière universelle. D'autres, qu'elles ne faisaient que s'y rejoindre et rattacher. D'autres, qu'elles étaient produites de la substance divine. D'autres, par les anges de feu et d'air. Aucun de toute ancienneté et aucun sur leur même du besoin. Aucun les font descendre du rond de la lune et retourner. Le commun des anciens, qu'elles sont engendrées de père en fils, d'une pareille manière et production que toutes autres choses naturelles, argumentant cela par la ressemblance des enfants aux pères, et qu'on voit écouler des pères aux enfants, non seulement les marques du corps, mais encore une ressemblance d'humeur, de complexion et inclination de l'âme. Que là-dessus se fonde la justice divine, punissant aux enfants la faute des pères, d'autant que la contagion des vices paternels est aucunement empreinte en l'âme des enfants et que le dérèglement de leur volonté les touche. Davantage que si les âmes venaient d'ailleurs que d'une suite naturelle et qu'elles eussent été quelque autre chose hors du corps, elles auraient recordation de leur être premier, attendu les naturelles facultés qui lui sont propres de discourir, raisonner et se souvenir. Car, pour faire valoir la condition de nos âmes comme nous voulons, il les faut présupposer toutes savantes lorsqu'elles sont à leur simplicité et pureté naturelle. Par un sien, elles eussent été telles, étant exemptes de la prison corporelle, aussi bien avant que d'y entrer, comme nous espérons qu'elles seront après qu'elles en seront sorties. Et de ce savoir, Il faudrait qu'elle se ressouvinsse encore et tant encore, comme disait Platon, que ce que nous apprenions n'était qu'un ressouvenir de ce que nous avions su, chose que chacun par expérience peut maintenir être fausse. En premier lieu, d'autant qu'il ne nous ressouvient justement que de ce qu'on nous apprend, et que si la mémoire faisait purement son office, au moins nous suggérerait-elle quelques traits outre l'apprentissage. Secondement, ce qu'elle savait étant dans sa pureté, c'était une vraie science, connaissant les choses comme elles sont, par sa divine intelligence. Là où ici on lui fait recevoir le mensonge et le vice, si l'on l'en instruit, en quoi elle ne peut employer sa réminiscence, cette image et conception n'ayant jamais logé en elle. De dire que la prison corporelle étouffe de manière ses facultés naïves, qu'elles y sont toutes éteintes, cela est premièrement contraire à cette autre créance, de reconnaître ses forces si grandes et les opérations que les hommes en sentent en cette vie si admirables, que d'en avoir conclu cette divinité et éternité passée et l'immortalité à venir. En outre, c'est ici chez nous et non ailleurs que doivent être considérées les forces et les effets de l'âme. Tout le reste de ses perfections lui est vain et inutile. C'est de l'état présent que doit être payée et reconnue toute son immortalité et de la vie de l'homme qu'elle est comptable seulement. Ce serait injustice de lui avoir retranché ses moyens et ses puissances, de l'avoir désarmé pour du temps de sa captivité et de sa prison, de sa faiblesse et maladie, du temps où elle aurait été forcée et contrainte, tirer le jugement et une condamnation de durée infinie et perpétuelle, et de s'arrêter à la considération d'un temps si court, qui est à l'aventure d'une ou de 2 heures, ou au pis-aller d'un siècle, qui n'ont plus de proportion à l'infinité qu'un instant, pour de ce moment d'intervalle ordonner et établir définitivement de tout son être. Ce serait une disproportion inique, de tirer une récompense éternelle en conséquence d'une si courte vie. Platon, pour se sauver de cet inconvénient, veut que les paiements futurs se limitent à la durée de 100 ans, relativement à l'humaine durée, et des nôtres à celles auront donné bon ordre temporel. Par ainsi, il jugeait que sa génération suivait la commune condition des choses humaines, comme aussi sa vie, par l'opinion d'Épicure et de Démocrite, qui a été la plus reçue, suivant ses belles apparences. Qu'on la voyait naître, à même que le corps en était capable, on voyait élever ses forces comme les corporelles, on y reconnaissait la faiblesse de son enfance, et avec le temps sa vigueur et sa maturité, et puis sa déclination et sa vieillesse, et enfin sa décrépitude. Il l'apercevait capable de diverses passions et agité de plusieurs mouvements pénibles, d'où elle tombait en lassitude et en douleur, capable d'altération et de changement, d'allégresse, d'assoupissement et de langueur, sujette à ses maladies et aux offenses, comme l'estomac ou le pied, éblouie et troublée par la force du vin, démuée de son assiette par les vapeurs d'une fièvre chaude, endormie par l'application d'aucun médicament et réveillée par d'autres. On lui voyait étonner et renverser toutes ses facultés par la seule morsure d'un chien malade et n'y avoir nulle si grande fermeté de discours, nulle suffisance, nulle vertu, nulle résolution philosophique, nulle contention de ses forces, qu'il a pu exempter de la suggestion de ses accidents. La salive d'un chétif matin, versée sur la main de Socrate, secouait toute sa sagesse et toutes ses grandes et si régies imaginations, les anéantir, de manière qu'il ne resta aucune trace de sa connaissance première. Et ce venin ne trouvait non plus de résistance en cette âme qu'en celle d'un enfant de 4 ans, venin capable de faire devenir toute la philosophie, si elle était incarnée, furieuse et insensée. Si que Caton, qui tordait le col à la mort même et à la fortune, ne put souffrir la vue d'un miroir ou de l'eau, accablé d'épouvantement et d'effroi, quand il serait tombé par la contagion d'un chien enragé, en la maladie que les médecins nomment hydrophobie. Or, quant à ce point, la philosophie a bien armé l'homme pour la souffrance de tous autres accidents, ou de patience, ou si elle coûte trop à trouver d'une défaite infaillible, en se dérobant tout à fait du sentiment. Mais ce sont moyens qui servent à une âme étant à soi, et en ses forces, capable de discours et de délibération, non pas à cet inconvénient où chez un philosophe, une âme devient l'âme d'un fol, troublé, renversé et perdu. Ce que plusieurs occasions produisent comme une agitation trop véhémente, que par quelque forte passion l'âme peut engendrer en soi-même, ou une blessure en certain endroit de la personne, ou une exhalation de l'estomac, nous jetant à un éblouissement et tournoiement de tête. Les philosophes n'ont, ce me semble, guère touché cette corde, non plus qu'une autre de pareille importance. Ils ont ce dilemme toujours en la bouche pour consoler notre mortelle condition. Ou l'âme est mortelle, ou immortelle. Si mortelle, elle sera sans peine. Si immortelle, elle ira en amendant. Il ne touche jamais l'autre branche. Quoi ? Et si elle va en empirant ? Et il laisse au poète les menaces des peines futures. Mais par là, ils se donnent un beau jeu. Ce sont deux omissions qui s'offrent à moi souvent leur discours. Je reviens à la première. Cette âme perd l'usage du souverain bien stoïque, si constant et si ferme. Il faut que notre belle sagesse se rende en cet endroit et quitte les armes. Au demeurant, il considérait aussi par la vanité de l'humaine raison que le mélange et société de deux pièces si diverses comme est le mortel et l'immortel est inimaginable. Davantage, il sentait l'âme s'engager en la mort comme le corps. Ce que, selon Zénon, l'image du sommeil nous montre assez, car il estime que c'est une défaillance et chute de l'âme aussi bien que du corps. Et ce qu'on aperçoit en aucun, sa force et sa vigueur, se maintenir en la fin de la vie, il le rapportait à la diversité des maladies, comme on voit les hommes en cette extrémité maintenir qui un sens, qui un autre, qui l'ouïr, qui le fleurer, sans altération, et ne se voit point d'affaiblissement si universel qu'il n'y reste quelques parties entières et vigoureuses. La vue de notre jugement se rapporte à la vérité, comme fait l'œil du chat-huant à la splendeur du soleil, ainsi que dit Aristote. Par où le saurions-nous mieux convaincre que par si grossiers aveuglements d'une si apparente lumière? C'est car l'opinion contraire de l'immortalité de l'âme, laquelle Cicéron dit avoir été premièrement introduite, au moins du témoignage des livres par Phérécides, Sirius, du temps du roi Tullus, dont on attribue l'invention à Thalès et d'autres à d'autres, c'est la partie de l'humaine science traitée avec plus de réservation et de doute. Les dogmatistes les plus fermes sont contraints en cet endroit principalement de se rejeter à l'abri des ombrages de l'Académie. Nul ne sait ce qu'Aristote a établi de ce sujet, non plus que tous les anciens en général, qui le manient d'une vacillante créance. Il s'est caché sous le nuage des paroles et sens difficiles et non intelligibles, et a laissé à ses sectateurs autant à débattre sur son jugement que sur la matière. Deux choses leur rendaient cette opinion plausible. L'une, que sans l'immortalité des âmes, il n'y aurait plus de quoi asseoir les vaines espérances de la gloire, qui est une considération de merveilleux crédit au monde. L'autre, que c'est une très utile impression, comme dit Platon, que les vices, quand ils se déroberont de la vue et connaissance de l'humaine justice, demeurent toujours en but à la divine, qui les poursuivra, voire après la mort des coupables. Un soin extrême tient l'homme d'allonger son être, il y a pourvu par toutes ses pièces. Et pour la conservation du corps sont les sépultures, pour la conservation du nom, la gloire. Il a employé toute son opinion à se rebâtir, impatient de sa fortune, et à s'estançonner par ses inventions. L'âme, par son trouble et sa faiblesse, ne pouvant tenir sur son pied, va quêtant de toutes parts des consolations, espérances et fondements et des circonstances étrangères où elle s'attache et se plante. Et pour légers et fantastiques que son invention les lui forge, s'y repose plus sûrement qu'en soi et plus volontiers. Mais les plus aheurtés à cette si juste et claire persuasion de l'immortalité de nos esprits s'émerveillent comme ils se sont trouvés courts et impuissants à l'établir par leurs humaines forces. Somnia sunt non docentis et optantis, disait un ancien. Les songes n'appartiennent pas à quelqu'un qui enseigne, mais à quelqu'un qui souhaite. L'homme peut reconnaître par ce témoignage qu'il doit à la fortune et aux rencontres la vérité qu'il découvre lui seul, puisque lors même qu'elle lui est tombée en main, il n'a pas de quoi la saisir et la maintenir, et que sa raison n'a pas la force de s'en prévaloir. Toute chose produite par notre propre discours et suffisance, autant vraie que fausse, sont sujettes à incertitude et débat. C'est pour le châtiment de notre fierté et instruction de notre misère et incapacité que Dieu produisit le trouble et la confusion de l'ancienne tour de Babel. Tout ce que nous entreprenons sans son assistance, tout ce que nous voyons sans la lampe de sa grâce, ce n'est que vanité et folie. L'essence même de la vérité qui est uniforme et constante, quand la fortune nous en donne la possession, nous la corrompons et abâtardissons par notre faiblesse. Quelque train que l'homme prenne de soi, Dieu permet qu'il arrive toujours à cette même confusion de laquelle il nous représente si vivement l'image par le juste châtiment de quoi il bâtit l'outrecuidance de Némrod et anéantit les vaines entreprises du bâtiment de sa pyramide. La diversité d'idiomes et de langues, de quoi il troubla ce trouvage, qu'est-ce autre chose que cette infinie et perpétuelle altercation et discordance d'opinions et de raisons qui accompagne et embrouille le vain bâtiment de l'humaine science, et l'embrouille utilement? Qui nous tiendrait si nous avions un grain de connaissance? Ce saint m'a fait grand plaisir. Jusque à quel point de présomption et d'insolence ne portons-nous notre aveuglement et notre bêtise? Mais pour reprendre mon propos, c'était vraiment bien raison que nous fussions tenus à Dieu seul et au bénéfice de sa grâce, de la vérité d'une si noble créance, puisque de sa seule libéralité, nous recevons le fruit de l'immortalité, lequel consiste en la jouissance de la béatitude éternelle. Confessons ingénument que Dieu seul nous l'a dit, et la foi, car le son, n'est-ce pas, de nature et de notre raison, et qui retentera son être et ses forces, et dedans et dehors, sans ce privilège divin? Qui verra l'homme sans le flatter? Il n'y verra ni efficace, ni faculté qui sent autre chose que la mort et la terre. Plus nous donnons et devons et rendons à Dieu, nous en faisons d'autant plus chrétiennement. Ce que ce philosophe stoïcien dit tenir du fortuit consentement de la voix populaire, valait-il pas mieux qu'il le tînt de Dieu? Or, la faiblesse des arguments humains sur ce sujet se connaît singulièrement par les fabuleuses circonstances qu'ils ont ajoutées à la suite de cette opinion pour trouver de quelles conditions était cette notre immortalité. Laissons les stoïciens, qui donnent aux âmes une vie au-delà de celle-ci, mais finie. La plus universelle et plus reçue fantaisie, et qui dure jusque à nous, ça a été celle de laquelle on fait auteur Pythagoras. Non qu'il en fût le premier inventeur, mais d'autant qu'elle reçut beaucoup de poids et de crédit par l'autorité de son approbation. C'est que les âmes, au partir de nous, ne faisaient que rouler de l'un corps à un autre, d'un lion à un cheval, d'un cheval à un roi, se promenant ainsi sans cesse de maison en maison. Et lui disait se souvenir avoir été Étalidès, depuis Euphorbus, en après Hermotimus, enfin de Pyrrhus, être passé en Pythagore, ayant mémoire de soi de 206 ans. Aucun ajoutait que ces mêmes âmes remontent au ciel parfois et en dévalent encore. Origène les fait aller et venir éternellement du bon au mauvais état. L'opinion que Varron récite est qu'en 440 ans de révolution, elles se rejoignent à leur premier corps. Chrysippus, que cela doit advenir après certains espaces de temps inconnus et non limités. Platon, qui dit tenir de Pindare et de l'ancienne poésie cette croyance, des infinies vicissitudes de mutation auxquelles l'âme est préparée, n'ayant ni les peines ni les récompenses en l'autre monde, que temporelle comme sa vie ancestuici n'est que temporelle, conclut en elle une singulière science des affaires du ciel, de l'enfer et d'ici, où elle a passé, repassé et séjourné à plusieurs voyages, matière à sa réminiscence. Voici son progrès d'ailleurs. Qui a bien vécu, il se rejoint à l'astre auquel il est assigné, qui mal, il passe en femme, et si lors même il ne se corrige point, il se rechange en bête de conditions convenables à ses mœurs vicieuses, et ne verra fin à ses punitions qu'il ne soit revenu à sa naïve constitution, s'étant, par la force de la raison, défait des qualités grossières, stupides et élémentaires qui étaient en lui. Mais je ne veux oublier l'objection que font les épicuriens à cette transmigration de corps en autre. Elle est plaisante. Ils demandent quel ordre il y aurait si la presse des mourants venait à être plus grande que des naissants, car les années et délogés de leur gîte seraient à se fouler à qui prendrait place la première dans ce nouvel étui, et demandent aussi à quoi elles passeraient leur temps, cependant qu'elles attendraient qu'un logis leur fût apprêté, ou au rebours, s'ils naissaient plus d'animaux qu'ils n'en mouraient, ils disent que les corps seraient en mauvais parti, attendant l'infusion de leur âme et en atteindraient qu'aucun d'eux se mourrait avant que d'avoir été vivant. D'autres ont arrêté l'âme au corps des trépassés pour en animer les serpents, les vers et autres bêtes qu'on dit s'engendrer de la corruption de nos membres, voire et de nos cendres. D'autres la divisent en une partie mortelle et l'autre immortelle. Autres la font corporelle et ce néanmoins immortelle. Aucun la font immortelle, sans science et sans connaissance. Il y en a aussi des nôtres même qui ont estimé que des âmes des condamnés, ils s'en faisaient des diables, comme Plutarque pense qu'ils se fassent des dieux de celles qui sont sauvées. car il est peu de chose que cet auteur-là établisse d'une façon de parler si résolue qu'il fait cette-ci. Maintenant, par tout ailleurs une manière dubitatrice et ambiguë. Il faut estimer, dit-il, et croire fermement que les âmes des hommes vertueux, selon nature et selon justice divine, deviennent d'hommes saints et de saints demi-dieux, et de demi-dieux, après qu'ils ont parfaitement, comme sacrifice de purgation, nettoyé et purifié, étant délivré de toute possibilité, de toute mortalité, ils deviennent, non par aucune ordonnance civile, mais à la vérité et selon raison vraisemblable, Dieu entier et parfait, en recevant une fin très heureuse et très glorieuse. Mais qui le voudra voir, lui, qui est des plus retenus pourtant et modérés de la bande, s'escarmoucher avec plus de hardiesse et nous conter ses miracles sur ce propos? Je le renvoie à son discours de la lune et du démon de Socrate, là où aussi évidemment qu'en nul autre lieu, il se peut avérer les mystères de la philosophie avoir beaucoup d'étrangeté, commune avec celle de la poésie. L'entendement humain se perdant à vouloir sonder et contrôler toute chose jusqu'au bout. Tout ainsi comme, lassé et travaillé de la longue course de notre vie, nous retombons en enfantillage. Voilà les belles et certaines instructions que nous tirons de la science humaine sur le sujet de notre âme. Il n'y a point moins de témérité en ce qu'elle nous apprend des parties corporelles. Choisissons en un ou deux exemples, car autrement nous nous perdrions dans cette mer trouble et vaste des erreurs médicinales. Sachons, si on s'accorde au moins en ceci, de quelle matière les hommes se produisent les uns des autres. Car quant à leur première production, ce n'est pas merveille si en chose si haute et ancienne, l'entendement humain se trouble et dissipe. Archélaüs, le physicien, duquel Socrate fut le disciple et le mignon, selon Aristoxénus, disait « Et les hommes et les animaux avoir été faits d'un limon laiteux, exprimé par la chaleur de la terre. » Pythagoras dit notre semence être l'écume de notre meilleur sang. Platon, l'écoulement de la moelle de l'épine du dos. Ce qu'il argumente de ce que cet endroit, ce sont les premiers de la lasté et de la besogne. Alcméon, partie de la substance du cerveau. Et qu'il soit ainsi, dit-il, les yeux troubles à ceux qui se travaillent outre mesure à cet exercice. Démocrite, une substance extraite de toute la masse corporelle. Épicure, extraite de l'âme et du corps. Aristote, un excrément tiré de l'aliment du sang, le dernier qui s'épand en nos membres. Autre, du sang cuit et digéré par la chaleur des génitoires. Ce qu'il juge de ce qu'aux extrêmes efforts on rend des gouttes de pur sang. En quoi il semble qu'il n'ait plus d'apparence si on peut tirer quelque apparence d'une confusion si infinie. Or, pour mener à effet cette semence, combien en font-ils d'opinions contraires? Aristote et Démocrite tiennent que les femmes n'ont point de sperme, et que ce n'est qu'une sueur qu'elles élancent par la chaleur du plaisir et du mouvement qui ne sert de rien à la génération. Galen, au contraire, et ses suivants, que sans la rencontre des semences, la génération ne peut se faire. Voilà les médecins, les philosophes, les jurisconsultes et les théologiens aux prises pêle-mêle avec nos femmes sur la dispute à quel terme les femmes portent leurs fruits. Et moi, je secours par l'exemple de moi-même ceux d'entre eux qui maintiennent la grossesse de 11 mois. Le monde est bâti de cette expérience. Il n'est si simple femmelette qui ne puisse dire à son avis sur toutes ces contestations, et si nous n'en saurions être d'accord. En voilà assez pour vérifier que l'homme n'est non plus instruit de la connaissance de soi en la partie corporelle qu'en la spirituelle. Nous l'avons proposé lui-même à soi et sa raison à sa raison, pour voir ce qu'elle nous en dirait. Il me semble l'avoir assez montré combien peu elle s'entend en elle-même. Et qui ne s'entend en soi? En quoi se peut-il entendre? Vraiment, Protagoras nous en comptait de belles, faisant l'homme la mesure de toute chose, qui ne suit jamais seulement la sienne. Si ce n'est lui, sa dignité ne permettra pas qu'autre créature ait cet avantage. Or, lui étant en soi si contraire, et l'un jugement subvertissant l'autre sans cesse, cette favorable proposition n'était qu'une risée qui nous menait à conclure par nécessité la néantise du compas et du compasseur. Quand Thalès estime la connaissance de l'homme très difficile à l'homme, il lui apprend la connaissance de toute autre chose lui être impossible. Vous, pour qui j'ai pris la peine d'étendre un si long corps contre ma coutume, ne refusez point de maintenir votre seconde par la forme ordinaire d'argumenter, de quoi vous êtes tous les jours instruite et exercerez en cela votre esprit et votre étude. Car ce dernier tour d'escrime ici, il ne le faut employer que comme un extrême remède. C'est un coup désespéré auquel il faut abandonner vos armes pour faire perdre à votre adversaire les siennes, et un tour secret duquel il se faut servir rarement et réservément. C'est grande témérité de vous perdre pour perdre un autre. Il ne faut pas vouloir mourir pour se venger comme fit Gobryas. Car étant aux prises bien étroites avec un seigneur de Perse, Darius, y survenant l'épée au poing, qui craignait de frapper de peur d'asséner Gobryas, il lui cria qu'il donna hardiment quand il devrait donner au travers tous les deux. J'ai vu réprouver pour injuste des armes et conditions de combat singuliers désespérés, et auxquelles celui qui les offrait mettait lui et son compagnon en termes d'une fin à tous deux inévitable. Les Portugais prirent en la mer des Indes certains Turcs prisonniers, lesquels, impatients de leur captivité, se résolurent, et leur succéda, frottant des clous de navire l'un à l'autre, et faisant tomber une étincelle de feu dans les caques de poudre qu'il y avait en l'endroit où ils étaient gardés, d'embraser et mettre en cendres eux, leur maître et le vaisseau. Nous secouons ici les limites et dernières clôtures des sciences, auxquelles l'extrémité est vicieuse comme en la vertu. Tenez-vous dans la route commune. Il ne fait mi-bon être si subtil et si fin. Souvienne-vous de ce que dit le proverbe toscan « Qui troppo sa sottilia si scavezza ». Je vous conseille, en vos opinions et en vos discours, autant qu'en vos mœurs et en toute autre chose, la modération et la trempance et la fuite de la nouvelleté et de l'étrangeté. Toutes les voies extravagantes me fâchent. Vous, qui, par l'autorité que votre grandeur vous apporte, et encore plus par les savants avantages que vous donnent les qualités plus vôtres, pouvez d'un clin d'œil commander à qui il vous plaît. Deviez donner cette charge à quelqu'un qui fit profession des lettres, qui vous eût bien autrement appuyé et enrichi cette fantaisie. Toutefois, en voici assez pour ce que vous en avez à faire. Épicurus disait des lois que les pires nous étaient si nécessaires que sans elles, les hommes s'entremangeraient les uns les autres. Et Platon vérifie que sans loi, nous vivrions comme bêtes. Notre esprit est un outil vagabond, dangereux et téméraire. Il est malaisé d'y joindre l'ordre et la mesure. De mon temps, ceux qui ont quelque rare excellence au-dessus des autres et quelque vivacité extraordinaire, nous les voyons quasi tous débordés en licence d'opinion et de mœurs. C'est miracle s'ils s'en rencontrent un rassis et sociable. On a raison de donner à l'esprit humain les barrières les plus contraintes qu'on peut. En l'étude comme au reste, il lui faut compter et régler ses marches. Il lui faut tailler par art les limites de sa chasse. On le brie des garrottes de religion, de loi, de coutumes, de sciences, de préceptes, de peines et récompenses mortelles et immortelles. Mais encore voit-on que par sa volubilité et dissolution, il échappe à toutes ses liaisons. C'est un corps vain qui n'a pas par où être saisi et asséné, à un corps divers et difforme, auquel on ne peut asseoir nœud ni prise. Certes, il est peu d'âmes si réglées, si fortes, si bien nées, à qui l'on se puisse fier de leur propre conduite, et qui puissent, avec modération et sans témérité, voguer en la liberté de leur jugement au-delà des opinions communes. Il est plus expédient de les mettre en tutelle. C'est un outrage glaive à son possesseur même que l'esprit, à qui ne cesse en armer ordonnément et discrètement. Et il n'y a point de bête à qui il faille plus justement donner des ornières pour tenir sa vue subjecte et contrainte devant ses pas, et la garder, d'extravaguer ni ça ni là, hors des ornières que l'usage et la voie lui tracent. Par quoi il vous sera mieux de vous resserrer dans le train accoutumé, quel qu'il soit, que de jeter votre vol à cette licence effrénée. Mais si quelqu'un de ces nouveaux docteurs entreprend de faire l'ingénieux en votre présence, aux dépens de son salut et du vôtre, pour vous défaire de cette dangereuse peste qui se répand tous les jours en vos cours, ce préservatif à l'extrême nécessité empêchera que la contagion de ce venin n'offensera ni vous ni votre assistance. La liberté donc et gaillardise de ces esprits anciens produisait en la philosophie et sciences humaines plusieurs sectes d'opinions différentes, chacun entreprenant de juger et de choisir pour prendre parti. Mais à présent que les hommes vont tous un train, et que nous recevons les arts par civile autorité et ordonnance, si que les écoles n'ont qu'un patron et pareille institution et discipline circonscrite, on ne regarde plus ce que les monnaies pèsent et valent, mais chacun à son tour les reçoit selon le prix que l'approbation commune et le cours leur donnent. On ne plaide pas de la loi, mais de l'usage. Ainsi se mettent également toutes choses. On reçoit la médecine comme la géométrie, et les batelages, les enchantements, les liaisons, le commerce des esprits des trépassés, les pronostications, les donification, et jusqu'à cette ridicule poursuite de la pierre philosophale, tout se met sans contredit. Il ne faut que savoir que le lieu de Mars loge au milieu du triangle de la main, celui de Vénus au pouce et de Mercure au petit doigt, et que quand la mensale coupe le tubercle de l'enseigneur, c'est digne de cruauté. Quand elle faux sous le mitoyen et que la moyenne naturelle fait un angle avec la vitale, sous même endroit que c'est signe d'une mort misérable. Que si à une femme la naturelle est ouverte et ne ferme point l'angle avec la vitale, cela dénote qu'elle sera mal chaste. Je vous appelle vous-même à témoin. Si avec cette science, un homme ne peut passer avec réputation et faveur parmi toute compagnie. Théophraste disait que l'humaine connaissance acheminée par les sens pouvait juger des causes des choses jusqu'à certaines mesures, mais qu'étant arrivée aux causes extrêmes et premières, il fallait qu'elle s'arrêtât et qu'elle rebouchât. À cause ou de sa faiblesse ou de la difficulté des choses. C'est une opinion moyenne et douce que notre suffisance nous peut conduire jusqu'à la connaissance d'aucune chose et qu'elle a certaines mesures de puissance outre lesquelles c'était mérité de l'employer. Cette opinion est plausible et introduite par genre de composition. Mais il est malaisé de donner borne à notre esprit. Il est curieux et avide et n'a point occasion de s'arrêter plutôt à 1000 pas qu'à 50. Ayant essayé par expérience que ce à quoi l'un s'était failli, l'autre y est arrivé, et que ce qui était inconnu à un siècle, le siècle suivant l'a éclairci, et que les sciences et les arts ne se jettent pas en moule, mais se forment et figurent peu à peu en les maniant et polissant à plusieurs fois comme les ours façonnent leurs petits en les léchant à loisir, ce que ma force ne peut découvrir, je ne laisse pas de le sonder et essayer, et en retâtant et pétrissant cette nouvelle matière, la remuant et l'échauffant, j'ouvre à celui qui me suit quelque facilité pour en jouir plus à son aise et la lui rend plus souple et plus maniable. Autant fera le second au tiers, qui est cause que la difficulté ne me doit pas désespérer, ni aussi peu mon impuissance, car ce n'est que la mienne. L'homme est capable de toute chose, comme d'aucune. Et s'il avoue, comme dit Théophraste, l'ignorance des causes premières et des principes, qu'il me quitte hardiment tout le reste de sa science. Si le fondement lui faut, son discours est par terre. Le disputer et l'enquérir n'a autre but et arrêt que les principes. Si cette fin n'arrête son cours, il se jette à une irrésolution infinie. Or, il est vraisemblable que si l'âme savait quelque chose, elle se saurait premièrement elle-même. Et si elle savait quelque chose hors d'elle, ce serait son corps et son étui avant toute autre chose. Si on voit jusqu'à aujourd'hui les dieux de la médecine se débattre de notre anatomie, quand attendons-nous qu'ils en soient d'accord? Nous nous sommes plus voisins que ne nous est la blancheur de la neige ou la pesanteur de la pierre. Si l'homme ne se connaît, comment connaît-il ses fonctions et ses forces? Il n'est pas à l'aventure que quelque notice véritable ne loge chez nous, mais c'est par hasard. Et d'autant que par même voie, même façon et conduite, les erreurs se reçoivent en notre âme, elle n'a pas de quoi les distinguer ni de quoi choisir la vérité du mensonge. Les académiciens recevaient quelque inclination de jugement et trouvaient trop cru de dire qu'il n'était pas plus vraisemblable que la neige fût blanche que noire, et que nous ne fussions non plus assurés du mouvement d'une pierre qui part de notre main que de celui de la 8e sphère. Et pour éviter cette difficulté et étrangeté qui ne peut à la vérité loger en notre imagination que malaisément, quoiqu'ils établissent que nous n'étions aucunement capables de savoir et que la vérité est engouffrée dans des profonds abîmes où la vue humaine ne peut pénétrer, si, advouaient-ils, les uns, choses plus vraisemblables que les autres, et recevaient en leur jugement cette faculté de se pouvoir incliner plutôt à une apparence qu'à une autre. Il lui permettait certes cette propension, lui défendant toute résolution. La vie des Pyrrhoniens est plus hardie et conséquemment plus vraisemblable, car cette inclination académique et cette propension à une proposition plutôt qu'à une autre, qu'est-ce autre chose que la reconnaissance de quelque plus apparente vérité, en celle-ci qu'en celle-là. Si notre entendement est capable de la forme, des linéaments du port et du visage, de la vérité, il la verrait entière, aussi bien que demi, naissante et imparfaite. cette apparence de vérisimilitude qui les fait prendre plutôt à gauche qu'à droite, augmentez-la. Cette once de vérisimilitude qui incline la balance, multipliez-la de cent de mille onces. Il en adviendra enfin que la balance prendra parti tout à fait et arrêtera un choix et une vérité entière. Mais comment se laissent-ils plier à la vraisemblance s'ils ne connaissent le vrai? Comment connaissent-ils la semblance de ce de quoi ils ne connaissent pas l'essence? Ou nous pouvons juger tout à fait, ou tout à fait nous ne le pouvons pas. Si nos facultés intellectuelles et sensibles sont sans fondement et sans pied, si elles ne font que flotter et vanter pour néant, laissons-nous emporter notre jugement à aucune partie de leur opération, quelque apparence qu'elle semble nous présenter. Et la plus sûre assiette de notre entendement est la plus heureuse. Ce serait celle-là où il se maintiendrait assis, droit, inflexible, sans branle et sans agitation. Inter visa, vera, aut falsa, ad animia sensum, nihil interest. Que les choses ne logent pas chez nous en leur forme et leur essence, et n'y fassent leur entrée de leur force propre et autorité, nous le voyons assez. Parce que s'il était ainsi, nous les recevrions de même façon. Le vin serait-il en la bouche du malade qu'en la bouche du saint? Celui qui a des crevasses aux doigts ou qui les a à gourd trouverait une pareille dureté au bois ou au fer qu'il manie, que fait un autre? Les sujets étrangers se rendent donc à notre merci. Ils logent chez nous comme il nous plaît. Or, si de notre part nous recevions quelque chose sans altération, si les prises humaines étaient assez capables et fermes pour saisir la vérité par nos propres moyens, ces moyens étant communs à tous les hommes, cette vérité se rejetterait de main en main de l'un à l'autre. Et au moins se trouverait-il une chose au monde de tant qu'il y en a, qui se croirait par les hommes d'un consentement universel. Mais ce, qu'il ne se voit aucune proposition qui ne soit débattue et controverse entre nous ou qui ne le puisse être, montre bien que notre jugement naturel ne saisit pas bien clairement ce qu'il saisit. Car mon jugement ne le peut faire recevoir au jugement de mon compagnon, qui est signe que je l'ai saisi par quelque autre moyen que par une naturelle puissance qui soit en moi et en tous les hommes. Laissons à part cette infinie confusion d'opinions qui se voit entre les philosophes mêmes et ce débat perpétuel et universel en la connaissance des choses. Car cela est présupposé très véritablement que d'aucune chose les hommes, je dis les savants, les mieux nés, les plus suffisants, ne sont d'accord. Non pas que le ciel soit sur notre tête, car ceux qui doutent de tout doutent aussi de cela, et ceux qui nient que nous puissions comprendre aucune chose disent que nous n'avons pas compris que le ciel soit sur notre tête. Et ces deux opinions sont en nombre, sans comparaison, les plus fortes. Outre cette diversité et division infinie, par le trouble que notre jugement nous donne à nous-mêmes et l'incertitude que chacun sent en soi, il est aisé à voir qu'il a son assiette bien mal assurée. Combien diversement jugeons-nous des choses? Combien de fois changeons-nous nos fantaisies? Ce que je tiens aujourd'hui et ce que je crois, je le tiens et le crois de toute ma croyance. Tous mes outils et tous mes ressorts empoignent cette opinion et m'en répondent sur tout ce qu'ils peuvent. Je ne saurais embrasser aucune vérité ni conserver avec plus d'assurance que je fais celle-ci. J'y suis tout entier, j'y suis vraiment. Mais ne m'est-il pas advenu, non une fois, mais cent, mais mille, et tous les jours, d'avoir embrassé quelque autre chose à tous ces mêmes instruments, en cette même condition que depuis j'ai jugé fausse. Au moins, faut-il devenir sage à ses propres dépens. Si je me suis trouvé souvent trahi sous cette couleur, si ma touche se trouve ordinairement fausse et ma balance inégale et injuste, quelle assurance en puis-je prendre à cette fois plus qu'aux autres? N'est-ce pas sottise de me laisser tant de fois piper à un guide? Toutefois, que la fortune nous remue 500 fois de place, qu'elle ne fasse que vider et remplir sans cesse, comme dans un vaisseau, dans notre croyance, autres et autres opinions, toujours la présente et la dernière, c'est la certaine et l'infaillible. Pour celle-ci, il faut abandonner les biens, l'honneur, la vie et le salut, et tout. Quoi qu'on nous prêche, quoi que nous apprenions, il faudrait toujours se souvenir que c'est l'homme qui donne et l'homme qui reçoit. C'est une mortelle main qui nous le présente, c'est une mortelle main qui l'accepte. Les choses qui nous viennent du ciel ont seule droit et autorité de persuasion, seule marque de vérité, laquelle aussi ne voyons-nous pas de nos yeux, ni ne la recevons par nos moyens. Cette sainte et grande image ne pourrait pas en un si chétif domicile, si Dieu pour cet usage ne le prépare, si Dieu ne le reforme et fortifie par sa grâce et faveur particulière et supernaturelle. Au moins, devrait notre condition fautive nous faire plus porter plus modérément et retenument nos changements. Il nous devrait souvenir, quoique nous reçussions en l'entendement, que nous recevons souvent des choses fausses et que c'est par ces mêmes outils qui se démentent et qui se trompent souvent. Or, n'est-il pas merveille s'il se démente étant si haillé à incliner, à tordre par bien les légères occurrences? Il est certain que notre appréhension, notre jugement et les facultés de notre âme en général souffrent selon les mouvements et altérations du corps, lesquelles altérations sont continuelles. N'avons-nous pas l'esprit plus éveillé, la mémoire plus prompte, le discours plus vif, en santé comme maladie? La joie et la gaieté ne nous font-elles pas recevoir les sujets qui se présentent à notre âme d'un tout autre visage que le chagrin et la mélancolie? Pensez-vous que les vers de Catulle ou de Sappho rient à un vieillard avaricieux et rechigné, comme à un jeune homme vigoureux et ardent? Cléomenes, fille d'Anaxandridas, étant malade, ses amis lui reprochaient qu'il avait des humeurs et fantaisies nouvelles et non accoutumées. « Je crois bien, fit-il aussi, ne suis-je pas celui que je suis étant saint? Et tant autres aussi sont autres mes opinions et fantaisies. » En la chicane de nos palais, ce mot est en usage, qui se dit des criminels qui rencontrent les juges en quelque bonne trempe, douce et débonnaire, gaudeat debona fortuna, qu'ils se réjouissent de sa bonne fortune. Car il est certain que les jugements se rencontrent parfois plus tendus à la condamnation, plus épineux et âpres, tantôt plus faciles, aisés et enclins à l'excuse. Tel qui rapporte de sa maison la douleur de la goutte, la jalousie ou le larcin de son valet, ayant toute l'âme teinte et abreuvée de colère, il ne faut pas douter que son jugement ne s'en altère vers cette part-là. Ce vénérable sénat d'Aréopage jugeait de nuit de peur que la vue des poursuivants corrompît sa justice. L'air même et la sérénité du ciel nous apportent quelques mutations. Comme dit ce vers grec en Cicéron, « Thales sunt hominum mentes, quali pater ipse Jupiter, auctifera lustravit lampade terras ». Ce ne sont pas seulement les fièvres, les breuvages et les grands accidents qui renversent notre jugement. Les moindres choses du monde le tournevirent. Il ne faut pas douter, encore que nous ne le sentions pas, que si la fièvre continue peut altérer notre âme, que la tierce n'y apporte quelque altération selon sa mesure et proportion. Si l'apoplexie assoupit et éteint tout à fait la vue de notre intelligence, il ne faut pas douter que le morfondement ne l'éblouisse. Et par conséquent, à peine se peut-il rencontrer une seule heure en la vie où notre jugement se trouve en sa due assiette, notre corps étant sujet à tant de continuelles mutations et étoffé de tant de sortes de ressorts que j'en crois les médecins combien il est malaisé qu'il y ait toujours quelqu'un qui tire de travers. Au demeurant, cette maladie ne se découvre pas si aisément, si elle n'est du tout extrême et irrémédiable, d'autant que la raison va toujours torte, boiteuse et détranchée, et avec elle le mensonge comme avec la vérité. Par ainsi, il est malaisé de découvrir son mécompte et dérèglement. J'appelle toujours raison cette apparence de discours que chacun forge en soi, cette raison de la condition de laquelle il n'y en peut avoir sans contraire autour d'un même sujet. C'est un instrument de plomb et de cire, allongeable, ployable et accommodable à tout biais et à toute mesure. Il ne reste que la suffisance de le savoir contourner. Quelque bon dessein qu'est un juge, s'il ne s'écoute de près, à quoi peu de gens s'amusent. L'inclination à l'amitié, à la parenté, à la beauté et à la vengeance, et non pas seulement chose si pesante, mais cet instinct fortuit qui nous fait favoriser une chose plus qu'une autre et qui nous donne, sans le congé de la raison, le choix en deux pareils sujets ou quelque ombrage de pareille vanité, peuvent insinuer insensiblement en son jugement la recommandation ou défaveur d'une cause et donnent les pentes à la balance. Moi, qui m'épie de plus près, qui ai les yeux incessamment tendus sur moi, comme celui qui n'a pas fort à faire ailleurs, à peine oserais-je dire la vanité et la faiblesse que je trouve chez moi. J'ai le pied si instable et si mal assis, je le trouve si aisé à crouler et si prêt au branle et à ma vue si déréglée, qu'à jeun je me sens autre qu'après le repas. Si ma santé me rit et la clarté d'un beau jour, me voilà honnête homme, mais si j'ai un corps qui me presse l'orteil, me voilà renfrogné, malplaisant et inaccessible. Un même pas de cheval me semble tantôt rude, tantôt aisé, et même chemin à cette heure plus court, une autre fois plus long, et une même forme hors plus, hors moins agréable. Maintenant je suis à tout faire, maintenant à rien faire. Ce qui m'est plaisir à cette heure me sera quelquefois peine. Il se fait mille agitations indiscrètes et casuelles chez moi. Ou l'humeur mélancolique me tient, ou la colérique. Et de son autorité privée, à cette heure, le chagrin prédomine en moi, à cette heure l'allégresse. Quand je prends des livres, j'aurai aperçu en tel passage des grâces excellentes et qui auront féru mon âme, que l'autre fois, j'y retombe, j'ai beau le tourner et virer, j'ai beau le plier et le manier, c'est une masse inconnue et informe pour moi. En mes écrits même, je ne retrouve pas toujours l'air de ma première imagination. Je ne sais ce que j'ai voulu dire, et m'échaude souvent à corriger et y mettre un nouveau sens pour avoir perdu le premier qui valait mieux. Je ne fais qu'aller et venir. Mon jugement ne tire pas toujours avant, il flotte, il vague. Maintes fois, comme il m'advient de faire volontiers, ayant pris pour exercice et pour ébat à maintenir une contraire opinion à la mienne, Mon esprit, s'appliquant et tournant de ce côté-là, m'y attache si bien que je ne trouve plus la raison de mon premier avis et mon départ. Je m'entraîne quasi où je penche, comment que ce soit, et m'emporte de mon poids. Chacun, à peu près, en dirait autant de soi, s'il se regardait comme moi. Les prêcheurs savent que l'émotion qui leur vient en parlant les anime vers la créance, et qu'en colère, nous nous adonnons plus à la déférence de notre proposition, l'imprimons en nous et l'embrassons avec plus de véhémence et d'approbation que nous ne le faisons étant en notre sens froid et reposé. Vous récitez simplement une cause à l'avocat, il vous y répond chancelant et douteux. Vous sentez qu'il lui est indifférent de prendre à soutenir l'un ou l'autre parti. L'avez-vous bien payé pour y mordre et pour s'en formaliser? Commence-t-il d'en être intéressé? Y a-t-il échauffé sa volonté? Sa raison et sa science s'y échauffent quand et quand. Voilà une apparente et indubitable vérité qui se présente à son entendement. Il y découvre une toute nouvelle lumière et le croit à bon escient et il se le persuade ainsi. Voir, je ne sais si l'ardeur qui naît du dépit et de l'obstination à la rencontre de l'impression et violence du magistrat et du danger, ou l'intérêt de la réputation, m'ont envoyé tel homme soutenir jusque au feu l'opinion par laquelle, entre ses amis et en liberté, il n'eût pas voulu s'échauder le bout du doigt.